Je m'appelle Louis Vincent, j'ai 23 ans. Actuellement, je travaille à Airbus Helicopters, où je m'occupe avec l'équipe d'ingénieurs de réparer les boîtes de transmission et les rotors d'hélicoptères. Donc, je fais ce qu'on peut appeler du management de production. J'encadre, je participe au pilotage de l'activité industrielle dans le cadre de la réparation des hélicoptères. Je fais ça par apprentissage. Et donc, de fil en aiguille, j'ai réussi, après plusieurs boulots, plusieurs expériences professionnelles, à arriver là. Et donc là, je vais rentrer en école d'ingénieur. Et je vais continuer, dans cette, voilà. Je partage ma vie en fait entre Marseille, où je travaille, et Paris, où j'étudie. Et donc, je perçois un salaire, j'ai des congés. En fait, je suis comme n'importe quel salarié. Et donc, ça me permet de, voilà, de me débrouiller seul, d'étudier et surtout d'apprendre, pas seulement à l'école en restant sur un banc, mais en ayant les mains dedans et la tête dedans, quoi. Donc, c'est très formateur. Je suis un DUT en génie mécanique. Je suis au CNAM de Paris. Alors, moi, déjà, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment par passion. Donc, si je fais ce que je fais aujourd'hui, on va dire, c'est parce que je suis vraiment passionné, j'aime vraiment mon métier. Donc, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir les mains dedans. En plus, je suis pas quelqu'un de très scolaire, on va dire. Je peux pas rester un mois, 2 mois assis sur une chaise à l'école et écouter un prof parler, sans avoir une application concrète de ce qu'on me raconte. Par exemple, on peut me raconter des choses, voilà une équation pour calculer un tore. Et je vais lui dire, d'accord, bon, bah, j'ai appris ça maintenant, mais à quoi ça va me servir, quoi? Donc, souvent, ça arrive en fait qu'à l'école, on nous dise, bah voilà, je sais pas, apprends-là, je sais pas à quoi ça peut servir. Et des fois, on se retrouve à dire au prof, bon, bah, ça peut nous servir par exemple pour calculer, sur un joint torique, quelle va être la dimension de notre joint torique pour éviter que pour garder la pression, éviter qu'on ait une perte d'huile ou etc. Donc voilà, donc j'ai besoin de cette application concrète qui me permet d'avoir l'apprentissage. Ça permet de comprendre peut-être ce que font les autres dans l'entreprise. Par exemple, moi j'ai des cours de bureau des méthodes. Ce qu'on appelle le bureau de méthode, c'est un bureau qui va définir des procédures, des fiches de travail, des méthodes pour dire aux techniciens comment travailler, etc. Moi, je ne travaille pas du tout en bureau des méthodes, mais grâce à mes cours, je sais ce que c'est un bureau des méthodes et je sais la manière dont ils travaillent. Je fais de la comptabilité, ça m'arrive, même si j'aime pas ça du tout, mais au moins, quand je vois une facture ou quelque chose, je suis capable de la comprendre. Pourquoi est-ce qu'on me met ces facteurs-là? Pourquoi, voilà. Ça permet d'avoir une vision plus globale. Oui, ça permet d'en apprendre beaucoup. Ça permet de survoler un peu et pas forcément, enfin, même si on rentre pas forcément en détail, de comprendre un peu plus globalement, oui, ce que les gens font dans notre domaine, même si on n'y travaille pas forcément. Ça permet de comprendre peut-être le travail des autres. Ouais. Donc, je suis franco-péruvien. Mon père est péruvien, ma mère est française. J'ai vécu 10 ans en Amérique latine. Je suis revenu ensuite du Pérou, je suis revenu en France pour finir mes études. Et donc au début, en fait, comme beaucoup de jeunes à l'école, je me suis orienté vers un bac généraliste, vers un bac ES, parce que j'aimais bien la sociologie, j'aimais bien la politique, l'économie, etc. Je m'intéressais à beaucoup de choses. Je voulais comprendre le monde qui m'entourait, savoir lire entre les lignes. Quand j'étais au lycée, j'ai toujours aimé la mécanique. Donc moi, par contre, un des traits de caractère qui fait que je me suis orienté ensuite vers ce que je fais, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui rentre dedans en fait, qui fonce. Je veux faire quelque chose, je le fais, je me pose pas de questions, quitte à être un peu compulsif et à me tromper des fois. Mais donc du coup, pendant que j'étais au lycée, j'adorais les bécanes. Enfin les bécanes, les motos, les voitures, la mécanique de manière générale. Mais ça a vraiment commencé avec les motos en fait. Et donc je récupérais plein de vieilles motos. C'était un peu le stéréotype du jeune qui tripote des mobylettes ou quoi. Et donc du coup, j'en suis arrivé là. La seule différence, on va dire, que j'ai eue avec les autres, c'est que j'ai vraiment poussé très très loin ce que je faisais, on va dire, par rapport aux autres, quoi. Donc, des mobylettes au motocross ou quoi, et je suis passé à des motos plus anciennes, de collection, plus de valeur. J'aimais bien l'histoire et j'aimais bien le fait de, quand j'achète une bécane de collection, j'achète aussi une part d'histoire. Donc j'ai commencé à restaurer même des voitures, des motos, etc. Et ensuite, je suis rentré chez les Compagnons du Devoir. Et chez les Compagnons du Devoir, donc j'ai pas fait vraiment de mécanique comme je faisais, je suis devenu usineur. J'étais fraiseur. Donc, pour rappel, un tourneur fraiseur, c'est celui qui usine, qui conçoit des pièces mécaniques, qui construit des pièces en fait. Donc, je suis passé à l'usinage, ce qu'on appelle la mécanique de précision, et j'étais en capacité de créer la mécanique. De créer des pièces, par exemple, que je n'avais pas pour une moto, j'étais en capacité de les créer, ou alors de modifier une pièce entièrement de A à Z pour donner la forme que je voulais, ou tout ce que je pouvais faire. Et donc ça m'a ouvert en fait des portes. En fait, ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a appris beaucoup sur, on en parlait tout à l'heure, les traitements chimiques, les traitements thermiques. Ça m'a appris beaucoup de choses, même sur la soudure. Ensuite, avec les compagnons, donc j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti travailler en Angleterre, j'étais soudeur. Ce qui n'avait rien à voir avec mon métier de base. Hein. Et donc voilà, et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à m'ouvrir des portes en fait. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que la mécanique, c'était pas juste des motos, quoi. La mécanique, c'est très très vaste, il y a beaucoup de choses, et je me suis vraiment ouvert sur l'industrie, comme on peut l'appeler. Et j'ai eu la chance de travailler pour Thales Alenia Space et Thales Underwater Systems. Et surtout la chance de travailler en fait à l'ancienne, donc dans la tradition des compagnons. Et en fait, je travaillais sur des machines entièrement conventionnelles. Donc comme dans les, je sais pas si on peut se l'imaginer, mais comme dans le film numéro 9, où il y a un petit vieux qui tourne des manivelles. Voilà, je faisais ça en fait. Je faisais entièrement du conventionnel, je faisais pas de numérique. Et toute la journée, je tournais des petites manivelles et tout. Et je travaillais pour le service proto, donc je faisais une pièce par jour. Jamais fait de série dans ma vie. Donc ça c'était génial. Donc c'était des pièces qui n'avaient jamais été faites et je devais réfléchir à comment est-ce que j'allais les faire, comment est-ce que je pouvais leur donner forme. Je faisais tout de A à Z, donc ça c'était magnifique. C'était vraiment. Et c'est un métier à part entière en fait. L'usinage conventionnel, c'est des anciens, des gens très anciens qui m'ont appris. Mon tuteur il avait 72 ans. Et j'ai voyagé, donc j'ai vu plein de choses, d'autres métiers, j'ai pu échanger. Chez les compagnons, j'ai pu échanger. Donc on rencontre beaucoup de jeunes, beaucoup de passionnés. Et ce qui est magnifique en fait, c'est que les métiers, que les jeunes se croisent en fait, et les métiers aussi se croisent, parce que en fait, vous avez des jeunes qui sont passionnés, qui travaillent énormément. Par contre, c'était dur comme école. J'ai beaucoup travaillé. C'est ça aussi qui m'a permis d'aller plus loin après. Donc les métiers se croisent, et donc par exemple, j'avais des potes qui étaient ferronniers, soudeurs, même maroquiniers, pourquoi pas. Des fois, j'usinais des pignons. Et je me demandais, mais pourquoi c'est comme ça? Ou alors, pourquoi est-ce que j'en mange ce roulement-là avec telle force plutôt que celle-ci? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des ingénieurs, en fait, pour nous amener à ces choix technologiques-là, plutôt que celui-là, etc. Et en plus, je faisais plein de calculs, des matériaux, je parlais avec des ingénieurs et tout. Et en fait, je me suis dit, ben, c'est bien, j'usine des pignons toute la journée, mais j'aimerais bien savoir dimensionner peut-être les dents de ces engrenages. Et donc j'ai décidé d'arrêter le Tour de France avec les compagnons et j'ai décidé de reprendre des études. Et pareil, j'ai eu la chance, encore une fois, d'être accepté au Conservatoire National des Arts et Métiers. Donc j'ai fait un DUT, donc un bac plus 2. Faut savoir que chez les compagnons, j'avais passé un bac pro. Donc je suis rentré en bac plus 2 et j'étais le premier bac pro de l'histoire. En fait, de leur DUT en fait, qu'ils ont beaucoup misé sur moi et sont très contents de m'avoir. Et au début, c'était très très dur. C'était vraiment pas facile les cours et tout. Je savais pas faire un produit en croix quand je suis arrivé. Moi et les maths, ça fait 6. Donc j'ai vraiment galéré. Mais je me suis battu, et notamment grâce aux méthodes de travail que j'avais appris chez les compagnons. Donc j'ai fait mon DUT en alternance et je l'ai fait donc à Airbus Helicopters, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à Airbus, donc encore une fois, en fait une carrière, une personne, en fait ça se fait des rencontres, c'est des chances qu'elle a. Et donc j'ai eu la chance aussi de tomber sur un service, un très beau service, avec un très bon manager. Et donc en fait, moi quand je suis arrivé là, j'avais réussi à capitaliser une très bonne expérience de mécanicien et une très très bonne expérience d'usineur. Et en fait, le fait de pouvoir combiner ces deux choses, ça me donne en fait un œil que n'ont pas les gens sur la mécanique, puisque je sais comment la pièce a été créée, je sais, vu que j'étais usineur, je sais comment est-ce qu'elle va évoluer dans le mécanisme, vu que j'étais mécanicien et que ça m'est arrivé de démonter des choses qui avaient beaucoup roulé ou quoi. Je savais aussi effacer même une pièce sur un défaut quand je voulais finir mon travail. J'avais beaucoup d'expérience en matériaux, donc voilà. Et donc en fait, ce qui m'a permis en fait d'avoir un très bon poste, je m'occupe d'une équipe d'experts. Ils sont 10 à Airbus Helicopters. Et en fait, donc les boîtes de transmission et les rotors, ils arrivent du monde entier puisqu'on leur fixe un potentiel de vol, un peu comme la voiture quand elle fait ses 100 000 km, elle doit faire une révision, etc. Donc quand elles sont en fin de potentiel de vol ou quand il y a eu un problème, donc un crash, n'importe, hein, qu'elles se soient pris une balle, j'en sais rien, ou même détecter des limailles dans l'huile, donc elles reviennent chez nous, donc on les démonte dans un premier temps, on les met à plat entièrement, et ensuite il y a cette équipe d'experts qui intervient, donc je m'occupe, et donc ils expertisent. Donc en fait c'est des orfèvres en fait des engrenages, donc toute la journée ils ont des loupes et ils regardent les engrenages et ils disent ok, donc moi je mets mon tampon, celle-là elle peut continuer à voler. Celle-là, je la jette à la poubelle, ou celle-là, je vais la faire réparer, etc. Et c'est des gens qui arrivent à effacer des défauts, mais surtout, ce qui est le plus incroyable chez eux, c'est qu'ils arrivent à retoucher des pièces tout en gardant leurs caractéristiques et leurs propriétés mécaniques. Et ils vont pouvoir retoucher un arbre qui vient rentrer dans un alésage, ajuster, et ils vont faire en sorte, quand ils retouchent la pièce, s'il y a un défaut, de garder sa concentricité, son parallélisme, etc. avec le reste des pièces. Des gens très précis. Et donc si j'avais pas eu le bagage technique que j'avais avant, j'aurais jamais pu avoir ce poste. Donc voilà, je l'ai fait avec eux. Donc c'était du management de production en fait. Donc la plupart de mes actions, elles découlaient d'actions correctives que nous demandait de mettre en place le service de qualité et la surveillance. Donc c'était, je gérais tout plein de projets, j'étais même amené à manager des gens, j'avais une petite équipe, donc c'était super sympa. Et donc maintenant j'ai fait 2 ans à Airbus, et j'aimerais bien changer, donc continuer à évoluer. En fait je veux pas m'enfermer dans une carrière ou dans un poste, j'aimerais bien continuer à voyager, continuer à voir d'autres choses. Et donc là, je continue à chercher, même s'ils m'ont proposé un poste encore à Airbus pour continuer, je continue à chercher, voir d'autres choses. Je veux continuer à voyager, à apprendre des choses et découvrir de nouveaux horizons. Ça demande beaucoup de sacrifices. Après, dans la vie, on n'a rien sans rien, quoi. Et le travail paye toujours. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis parti, donc j'ai beaucoup voyagé, etc. J'ai cette chance, mais il y a un moment où chez les compagnons, je me souviens, le record, le mois de mai, ma dernière année de compagnonnage, j'ai fait 10 000 km dans le mois. J'étais à Manchester, j'étais à Lyon, ensuite je suis revenu à Saint-Étienne, je suis reparti à Paris, Marseille pour des entretiens. Et je suis très fatigué. Ça demande des sacrifices financiers aussi de voyager, même si on est bien payé. Vie sociale aussi, vie familiale. Et puis voilà, faut travailler quoi. C'est tout. Donc moi, au final, même si je suis encore étudiant, j'ai pas eu et j'aurai jamais la vie étudiante qu'ont les jeunes qui sont en fac, qui sortent ou qui. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, je vis à travers mon travail, je vis à travers ma passion. Après, c'est l'histoire personnelle, mais il y a un moment où moi, enfin, j'aime beaucoup ce que je fais, etc. Mais peut-être qu'il y a un moment où je vais arrêter, une fois que j'aurai. En fait, là, je m'assure une carrière, je m'assure quelque chose. Après, il y a un moment où peut-être que je vais arrêter, parce que je vois bien au final comment ça se passe. Des fois, je travaille beaucoup, je me tue à la tâche, etc. Et je vois la vie passer à côté de moi, quoi. Je vois mes potes, par exemple, qui sortent, qui font plein de choses, qui. Donc, même si moi, je vis, hein, je dis pas, mais il y a un moment où peut-être que la vie, ouais, c'est pas juste travailler, quoi. Elle a beaucoup plus à offrir que simplement ce que je fais là. Mais je me pose pas de questions, je fonce, tout ce que j'aime, je le fais, je le vis à fond. Il faut savoir être curieux, il faut s'intéresser à tout. Même si c'est pas forcément votre métier ou votre. Il faut tout manger, il faut s'intéresser à tout. Et donc il y a des gens qui seront bienveillants, après il y en aura d'autres qui le seront moins, mais il faut profiter de ce que la vie a à nous offrir, de ce que notre carrière a à nous offrir, que ce soit des gens, que ce soit des opportunités, que ce soit des voyages, des. Voilà. Il faut jamais s'enfermer en fait dans un quotidien et dans quelque chose qui. Mais ouais, il y a des gens qu'il faut suivre, qui feront votre carrière, qui vous feront grandir, c'est plus important. Un bon manager, c'est quelqu'un qui n'a de cesse de tirer ses collaborateurs vers le haut pour les rendre le meilleur possible, quitte à être meilleur que lui-même. Et ça, c'est très important. D'avoir pu faire ce que j'ai fait, c'est une vraie chance. Et il y a des gens dans la vie qui n'ont pas autant de chance que moi. Bon, après, la chance, bon, il faut forcer le destin un peu. Voilà, moi j'ai des amis, mais j'ai beaucoup d'amis à Saint-Ouen, la plupart de mes amis qui ne font pas d'études, qui n'ont pas fait d'études, et des fois je parle avec eux, ils me disent, ah bah t'as de la chance, toi tu gagnes bien ta vie, tu. Et je leur dis, oui, mais bon. Toi, t'as même pas le bac. Et c'est pas parce que t'as pas envie. Enfin, si, justement, c'est parce que t'as pas envie, c'est pas parce que t'as pas les capacités, parce que t'es quelqu'un de très intelligent. Mais tu fais rien, quoi. J'ai un frein, un très gros frein. C'est que des fois, on me demande de manager des gens, donner des ordres, de faire des choses. Alors, je suis tout à fait capable de le faire, parce que j'ai les compétences et j'ai le. Mais mon âge me bloque quand je parle à quelqu'un. Je veux toujours rester humble, toujours garder la tête froide. Je veux pas, j'ai aucune envie de marcher sur les gens. Et donc j'ai une difficulté à manager les gens de par mon âge. Mais c'est moi-même, c'est un frein à moi-même que j'ai. Des fois, je parle à quelqu'un et je vais avoir du mal à imposer mon autorité parce que je suis jeune. Le management de production, ça fait appel. Bon, il faut avoir un bagage technique assez solide. Parce que quand vous parlez à quelqu'un, que vous lui dites comment travailler, il faut être solide dans son argumentaire. Mais organiser une production, organiser une industrie, c'est beaucoup d'économies aussi. Il faut avoir un très bon relationnel. Il faut avoir une vision sur le futur aussi, savoir se projeter sur l'avenir. Pourquoi est-ce que ce produit-là, je le laisserais chez un sous-traitant? Je me dis que voilà, celui-là, je ne vais plus le faire et j'ai besoin d'avoir une vision sur 30 ans, j'ai besoin d'approvisionner mon atelier en travail, donc je vais plutôt choisir ce produit-là plutôt que celui-ci. Il faut connaître un peu le code du travail. Quel type d'ingénieur je me vois plus tard, je ne sais pas. Là pour l'instant je suis en production, donc si je peux aller vers autre chose, j'irai. Peu importe ton milieu social, ton. Voilà, moi je fais des études et je suis payé pour, c'est incroyable, je suis payé pour. Et des fois je parle avec des jeunes ingénieurs ou quoi, ils me disent, bah moi je viens de finir mes études, j'ai 50 000 euros de crédit sur le dos. Et je me dis, ça c'est incroyable quoi. Moi je suis payé pour quoi. Et toi tu dois payer pour, c'est incroyable. Et même si j'ai pas forcément. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, je peux pas forcément, même s'il m'aide, hein, mais je peux pas forcément. Je peux pas me permettre de ne plus être indépendant maintenant que j'ai quitté ça. Enfin bref, on peut être payé pour étudier, on peut avoir une très belle carrière et un très beau parcours tout en gagnant sa vie, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qu'il faut que les jeunes de Saint-Ouen sachent, c'est que. Même si la famille des fois ne peut pas aider, ou même si vous n'avez pas forcément le niveau, ou même si. Ben, c'est possible en fait. C'est possible de très bien se débrouiller, de faire des choses incroyables, par le biais par exemple de l'alternance. L'important c'est de trouver sa voie en fait. Et pour trouver sa voie, voilà, l'autre message c'est qu'il faut être curieux, il faut avoir envie. Ce qui est dingue aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent, et plein de jeunes qui pensent que j'ai pas encore trouvé ma voie. Et en fait, qui pensent que c'est leur vocation qui va venir à eux, qu'un jour ça va leur tomber sur la tête et qu'ils vont se dire, ah, Eureka, c'est ça que je veux faire. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est toi, il faut que tu ailles ouvrir les portes, il faut que tu ailles chercher. Ah, ça c'est. Non, ça me plaît pas. Je vais ouvrir la deuxième. Ah, ça me plaît, j'y vais. Et là, 6 autres portes et je vais voir d'autres choses. Mais ça n'arrive pas comme ça, il faut avoir envie. Il faut s'ouvrir cette porte, voilà.